Ok, Rabotai, on y va. Donc on va commencer le Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 7 de Shar Aichud Ve'emuna. On va faire un petit résumé de ce qu'on a expliqué la semaine dernière, rapide. L'objectif de ce cours, de ce chapitre, c'est d'expliquer la notion de Yehuda Ila'a et Yehuda Tata'a. L'unité céleste et l'unité terrestre. Rappelez-vous, on a expliqué la semaine dernière que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Echad et Vaed, pour ceux qui se rappellent, forment le même mot. Il faut juste interchanger les lettres avec un système de changement de lettres. Echad Alef Red Dalet peut s'interchanger avec Vaed Vav Ain Dalet. On a expliqué la chose suivante, c'est ça, on s'arrêtait longuement dessus la semaine dernière. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu, en fait, pour régner sur nous, il est obligé de se contracter. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que s'il ne se contracte pas, ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Et si on n'a pas de libre arbitre, Dieu ne peut pas régner sur nous, en soi. Parce que pour régner, il faut qu'il y ait un peuple qui accepte exactement la souveraineté. Or, pour accepter la souveraineté, il fallait avoir le choix de ne pas l'accepter. Donc si Akadosh Baruch Hu ne s'était pas contracté, et que d'emblée on aurait ressenti Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être notre roi. Il aurait pu être notre père, il aurait pu être notre maître, on aurait pu être donc ses enfants, on aurait pu être ses serviteurs, mais pas ses sujets.
Il faut qu'on ait le choix.
Comment il dit, on ne choisit pas sa famille. Hein? Je ne choisis pas ma famille, on ne choisit pas nos enfants.
Il y a eu des cas dans la Bible, justement.
Alors, deux secondes. On ne choisit pas qui sera son père, on ne choisit pas qui sera sa mère, on ne choisit pas qui seront nos enfants. Même pour l'esclave, on peut encore choisir, mais ça veut dire que ce n'est pas quelque chose dans lequel on a vraiment. On ne demande pas le libre arbitre de l'esclave. Par contre, pour être le sujet d'un roi, il faut que la personne accepte la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu. La souveraineté du roi. Et il fallait qu'il ait le choix de ne pas le faire. En meler belo am. Il n'y a pas de roi sans peuple. On s'arrêtait longuement dessus la semaine dernière. On a expliqué que am, en hébreu, ça veut dire distant. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de distance. Or, pour qu'il y ait une distance, il faut qu'Hachem se contracte. Parce que si il ne se contracte pas, il n'y a pas de distance. Et s'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de roi. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu est obligé de se contracter. Bon, ça, on s'arrête longuement dessus. Ceux qui veulent revenir, Bezrat Hashem, pour revenir à l'enregistrement de la semaine dernière. En tout cas, nous, on va avancer un petit peu maintenant. Alors, l'objectif du cours d'aujourd'hui, de seconde, n'a pas commencé. On fait que démarrer. Ah, il a déjà les questions pour la prochaine. Dieu bénisse. Alors, maintenant, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer la différence entre Yehuda Ila'a et Yehuda Tata. Entre la façon comment nous on voit les choses en bas et la façon comment Dieu voit les choses réellement. Je vais commencer le cours d'aujourd'hui avec une anecdote qui va vous faire rigoler, mais qui est sympathique. On raconte qu'il y a deux personnes qui marchent dans la rue. Il y a une personne, les deux ils marchent les yeux fermés. Bon, ils sont un peu bornés, ils marchent les yeux fermés. Avec les yeux fermés. Le premier, il se cogne contre un poteau, et il dit « Pardon madame ». Le deuxième, il a aussi les yeux fermés, il se cogne contre une dame, il dit « Désolé, je croyais que c'était un poteau ». Quelle est la différence entre les deux ?
La différence entre les deux ?
La première fois, il se...
Non, c'est deux personnes différentes.
Une erreur.
Une erreur ?
Une erreur.
Ou une volonté.
Ils n'ont pas le même esprit, disons.
Ah, ah. Tu peux avoir les yeux fermés. Mais le gars, il avait tellement la tête à côté de la plaque qu'il s'imaginait qu'il y a des femmes partout. J'ai un peu cru dans l'exemple. Hein. Et donc du coup, il s'est cogné contre un poteau. Il s'est cogné contre un poteau, il a dit pardon madame, parce que dans sa tête il pense aux femmes. Donc le gars, on lui dit t'as fermé les yeux, mais en fait tes yeux étaient grands ouverts.
Ah non, moi je le verrais différemment.
D'accord, attends. Alors que l'autre, il avait vraiment les yeux fermés. Il pensait vraiment à une rue. Il était concentré. Ça, c'est un exemple qu'on ramène pour expliquer qu'en fait, tu peux avoir la même réalité, mais qui peut avoir une impression complètement différente. Je vais donner un autre exemple pour illustrer justement le cours d'aujourd'hui. Les gens posent la question, d'où on sait que Dieu existe ? C'est une bonne question. Moi, je sais que j'existe parce que je suis là, j'ai mes mains, ma tête, mes pieds, etc. J'ai une table, je sais que j'existe. Et les gens disent, d'où on sait que Dieu existe ? Mais il y a peut-être une autre question qu'on devrait poser. Au lieu de poser la question, d'où tu sais que Dieu existe ? Peut-être je devrais poser la question, d'où je sais que j'existe ? En d'autres termes, dans chaque chose, écoutez bien ma question, il y a toujours, dans tout questionnement, il y a toujours un élément duquel tu es certain, et un élément que tu ne connais pas. Parce que si tu connais rien, tu connais rien. Il y a toujours un élément duquel tu es sûr, et cet élément est la base pour poser une question sur autre chose. Par exemple, si je dis, Michel, pourquoi tu fais ça ? C'est que j'ai un référentiel, je pense que normalement il faudrait faire ça. Et si je dois faire ça, je dis, pourquoi tu fais ça ? Alors, nous, quel est notre référentiel ? Notre référentiel, c'est mon existence. Je dis, mon existence est là, elle existe. Dieu, je ne le vois pas. Donc, puisque Dieu, je ne le vois pas avec les mêmes critères, les mêmes paramètres que moi, je me vois et que moi, je me sens, je me dis, qui me dit que Dieu existe ? Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je regarde les choses par le bas. Je dis, moi, j'arrive à jauger les choses. Et puisque je n'arrive pas à jauger Dieu de la même façon que je me jauge, donc je dis, Dieu, je ne le vois pas. Mais peut-être faut réfléchir d'une autre façon. Je ne dis pas qu'on a ce niveau-là. De dire, la vraie existence dans ce monde, c'est qui ? C'est Dieu. Donc si la vraie existence est Dieu, qui me dit que j'existe ? Qui te dit que tu existes ? Peut-être c'est une fiction tout ça. Vous êtes sûr que vous existez ? Qui te dit que tu existes ? Et si tout ça c'était juste un...
Mais pourquoi une illusion.
Pourquoi oublie ça, je sais pas la question là. Maintenant, la question c'est pour vous montrer que la même réalité, tu peux la prendre d'un angle et d'un autre angle. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Yichuda ilaha, Yichuda tata. La façon de voir les choses d'en haut et la façon de voir les choses d'en bas. Pour la même réalité. C'est la même réalité. Les mêmes yeux fermés, c'est les mêmes rues. C'est la même chose. Seulement, tout dépend. Toi, tu poses la question d'où tu sais que Dieu existe. Moi, je te pose la question d'où tu sais que le monde existe. Et je vais te répondre d'où je sais que le monde existe. Parce que c'est écrit dans la Torah, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et si c'était pas écrit dans la Torah que Dieu a créé le ciel et la terre, j'aurais pu sans problème te dire que tout ce que tu vois autour de toi, c'est une fiction. Qui te dit que c'est pas une fiction ?
Là, si vous partez de ce postulat.
En plus, on sait que la matière, c'est de l'énergie. Alors, du coup, tu sais, si c'est un mouvement qui crée des masses, je dis, on va pas loin avec ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'énergie du cas ici. Donc, c'est rien du tout. Je touche une table, mais c'est rien. Tu touches de l'énergie. Tu touches rien du tout. Qui te dit que ça existe ? Seulement, moi, je réfléchis pas comme ça. Parce que nous autres, qui ne sommes pas tzadiki, mais qui n'ont pas l'habitude de réfléchir par en haut, on réfléchit par en bas. Donc, je me pose pas ces questions. Je me dis pas qui me dit que j'existe. Je me pose la question qui me dit que Dieu existe. Parce que comme je démarre d'en bas, ça en bas, moi je me connais. Moi, j'arrive à jauger les choses matériellement. Ce qui existe, ce qui n'existe pas. Donc, du coup, comme Dieu, je n'arrive pas à le jauger, je dis qui me dit que Dieu existe. Ichuda ila, ichuda tata. Alors, ce qu'il va expliquer aujourd'hui, c'est que, oui.
Pourquoi Dieu n'a pas
Non, mais deux secondes, je réponds à sa question parce qu'il y aura pas une question. Avant de répondre à la question, il faut d'abord savoir est-ce qu'on a bien posé la question. Parce qu'une question bien formulée, c'est déjà la moitié de la réponse. À bon entendeur.
Salut, d'accord. Mais.
Non, c'est une expression.
La question, si je poursuis votre raisonnement, comment j'existe moi ? Moi je me touche, je me vois, je pars, tout ça. J'ai la conviction que j'existe.
Mais qui vous dit que parce que vous avez une sensation de toucher quelque chose, que ça veut dire que ça existe ?
Il n'y a que toi qui as la preuve que tu te touches.
Ben non, il n'y a pas que moi. Non, parce que lui aussi me voit.
Vous savez, aujourd'hui.
Tout le monde m'entend ?
Je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a des systèmes 3D. Vous mettez des lunettes. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens.
Ça s'appelle une réalité.
D'accord. Mais mamache. C'est-à-dire, tu le vois. Ils ont des lunettes. Et tu plonges complètement. Et tu vois les gens. Ils ont des réflexes. Comme si qu'ils y étaient. Alors, avec ça, on n'a pas encore couvert tous les sens. On a couvert les yeux, on a couvert les oreilles, on a couvert aussi. Ils arrivent même à mettre des sondes pour des capteurs, par exemple. Quand sur un endroit il fait froid, il faut sentir qu'il fait froid. Donc on arrive à reproduire certains éléments, mais après. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à reproduire. Par exemple, quand dans le film, tu vois dans les 3D, tu vois que tu touches quelqu'un, ben là, quand tu touches rien. Tu touches, mais tu touches du vent. Mais le jour viendra, vous inquiétez pas, ils arriveront à faire avec la technologie tu vas toucher et que tu vas toucher ma vache.
Avec la différence que dans ce cas-là, je vois quelque chose. Je ne le touche pas, mais je le vois. Tandis que dans le cas de Dieu, ni je le vois, ni je le touche.
Mais qui me dit que ce qui définit la réalité d'une chose, c'est le fait que je le vois et que je le touche? Et si tout ça n'était qu'une illusion?
Alors c'est une illusion.
Ok. Donc encore une fois, moi, pour moi, mon point de départ, c'est ici. C'est comme la question, qui tourne autour de qui? Est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou la Terre qui tourne autour du soleil qui tourne autour de qui? Il faut toujours un point de départ. Si tu n'as pas de point de départ, tu ne peux pas démarrer.
Ben, on l'a découvert.
Non mais je comprends, mais même si vous l'avez découvert, tout tourne.
Mais on peut avoir la
tout tourne. On va faire des cours de physique quantique maintenant, mais tout tourne. Donc comment tu définis le point de départ? Qui tourne autour de qui? Tout tourne autour de tout. Qui tourne autour de qui? À un moment, il faut définir un point de départ. Tu dis, écoute, moi je connais pas vos salades, mon point de départ c'est le soleil. Ok, ou la Torah te dira, mon point de départ c'est la Terre.
Ça s'appelle un référentiel.
Il faut toujours un référentiel. Ben oui, tu es obligé d'avoir un référentiel. Qui te dit que tu marches? Qui te dit que tu avances? Parce que à côté de toi, tu as quelqu'un qui est stationnaire.
Oui.
Ok, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire, par exemple, on va pas refaire l'exemple des deux trains. D'où tu sais que t'as deux trains qui avancent, les deux à la même vitesse, hein? Vous avez fait ça à l'école? Les deux trains qui avancent, mais comment tu sais que tu avances? À un moment, il y en a un qui va accélérer. Et quand tu accélères, tu dis, ah, de là, je comprends ma vitesse. Mais si les deux vont exactement à la même vitesse, t'as aucun référentiel. Donc, encore une fois, la question d'aujourd'hui, c'est, quel est mon référentiel? Est-ce que mon référentiel c'est HM ou mon référentiel c'est moi? Alors, soyons honnêtes. C'est la vérité. Notre référentiel, c'est notre existence. Mon référentiel, c'est pas HM. Mon référentiel, c'est moi. C'est mon existence. Et c'est pour ça qu'en toute honnêteté, la question que je me pose, c'est pas est-ce que j'existe. Je sais pas, quelqu'un dit, s'est déjà posé la question, est-ce qu'il existait? C'est pas une question qu'on se pose de prime abord. La question, tu ne poses pas la question est-ce que tu existes. C'est pas la question est-ce que l'autre existe. Moi, j'existe, je suis là. Hein, je pense donc.
J'y suis.
Donc je suis, c'est moi, je suis là. J'ai pas besoin que tu m'expliques que je suis là. Je suis là. Ne m'explique pas. La Torah te dit, alors ça c'est Yehuda Tata, c'est la façon de voir les choses d'en bas, de dire écoute, moi je suis là, c'est sûr. Maintenant la question c'est est-ce que toi aussi tu es là? La Torah te dit peut-être une autre façon de voir les choses. Qui te dit que toi tu es là?
C'est...
Vraie question.
On peut la
D'où la question du Michel.
Est-ce que j'existe?
Tzimtzoum. C'est-à-dire Dieu se contracte, il se contracte tellement au point que la question qu'on se pose, c'est pas est-ce que nous on existe, c'est est-ce que lui il existe. Vous imaginez la contraction?
Bah, il s'est complètement
effacé. Complètement effacé.
C'est ça, donc c'est la question, pourquoi il s'efface?
Complètement.
Pourquoi il
s'efface? Mais à fond. Alors on y va. On va développer. Oui, sinon on peut pas.
Il est trop puissant. C'est comme une lumière qui est très très forte.
Trop puissante.
Si on la reçoit directement.
Oui, je comprends évidemment.
Non, pourquoi il se contracte? Voilà, je réponds à la question.
Monsieur Benita, imaginez que vous êtes le PDG d'une grande entreprise. D'accord. Et que vous êtes le PDG d'une grande entreprise. D'accord.
Voilà.
Le petit Marocain, Baruch
HaShem.
Il va vous montrer. Bon, vous êtes PDG d'une grande entreprise et que vous avez envie de former les employés, de leur donner une certaine autonomie pour qu'ils apprennent à se débrouiller. C'est bien. Donc tu leur dis, voilà, je vais essayer de me faire le plus petit possible pour qu'ils apprennent à se débrouiller sur le terrain et qu'ils comprennent que ça fonctionne et qu'il faut qu'ils travaillent, etc. Bon. Ok, donc tu vas te cacher un petit peu, tu te fais petit. Mais il y a des limites. Tu ne vas pas te faire petit jusqu'à qu'on arrive à une situation qu'un employé va dire, il n'y a pas de patron ici, c'est moi le patron, prouve-moi qu'il y a un patron. Si tu arrives à une situation comme ça, il y a un problème. Vous comprenez ma question? Ça veut dire qu'il y a des limites jusqu'à combien le patron se cache. Le patron, il se cache, il se fait petit, il se fait petit, il se fait petit, il se fait petit, mais là, il ne se fait pas petit. Là, il est inexistant. Il n'est pas là. C'est-à-dire qu'au point que dans 10 ans, tu vas aller voir un employé, tu vas dire, dis-moi, est-ce qu'il y a un patron dans cette boîte? Tu vas dire, non, il n'y a pas de patron ici, c'est moi le patron ici. Ah bon, il y a un patron? Je ne l'ai jamais connu. Prouve-moi qu'il y a un patron.
Alors, donc là aussi, je peux dire, moi, c'est moi Dieu.
Eh bien voilà. Alors, c'est la question. La question, c'est qui demande quoi? Dans mon exemple, l'employé va dire, s'il y a un patron, prouve-moi qu'il y a un patron.
Mais
la vraie question qu'on devrait poser, c'est l'employé devrait dire, qui a un patron? Je suis sûr qu'il y a un patron. Est-ce que moi je gère quelque chose? Mais personne ne se pose des questions comme ça. On se pose jamais des questions comme ça. Parce que notre existence fait que ce que je vis, je n'ai pas besoin de me prouver que ça existe. Personne n'a besoin de me prouver que j'existe. Tu n'as pas besoin de me prouver, parce que je le sens. Par exemple, je donne un exemple. Pourquoi, comment ça se fait que quand tu manges, tu es rassasié? Qui t'a prouvé que tu es rassasié? Comment ça se fait que quand tu as faim, tu as besoin de manger? Qui t'a prouvé que tu as faim?
Ça dépend chez qui tu bouffes.
Non mais sérieusement, qui t'a prouvé que tu as faim? Vous avez faim là maintenant? Demain c'est le jeûne. Qui vous dit, demain vous aurez faim? Qui vous dit que vous avez faim? Toi vous n'avez pas faim? Qui pose ces questions? C'est des questions bêtes ça. C'est vrai que j'ai faim. J'ai besoin de m'expliquer. J'ai besoin de faire un calcul. Dire, écoute, tu sais, parce que le dernier repas, il remonte à tant d'heures et j'ai mangé tant. Donc c'est normal que je dois faire un calcul, que je dois avoir faim. Personne ne fait des calculs comme ça. Qu'est-ce qu'on raconte des salades?
Je ne le fais pas parce qu'il y a une horloge. Hein,
voilà, mais c'est pas qu'il y a une horloge, c'est que c'est moi. On ne parle pas à quelqu'un d'autre, c'est moi. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi j'ai faim. J'ai faim. C'est moi. C'est des questions qu'on ne se pose pas. Ça veut dire que mon référentiel, c'est moi. Je t'ai pas demandé pourquoi j'ai faim et pourquoi j'ai soif. J'ai faim. C'est moi. Je suis là. Parce que notre référentiel, encore une fois, c'est moi. Et la question que je pose, c'est ah, Dieu, il veut ça. Est-ce que je dois donner la tzedaka? Est-ce que je dois faire la mitzvah? Tu comprends? Quelqu'un qui a de l'argent dans sa poche, il va pas se dire, est-ce que cet argent est à moi ou il est pas à moi? Personne ne se pose ces questions-là. Je dis, mais je comprends pas. Je pose pas la question, est-ce qu'il m'appartient ou pas? Je dis, c'est à moi. Il est dans ma poche, il est à moi. Ah, tu veux que je donne à quelqu'un d'autre? Je dis, ah, attends. Est-ce que tu veux que je prenne quelque chose qui est à moi, je donne à l'autre? Je ne sais pas si mon argent doit aller chez l'autre. Encore une fois, on est toujours dans le même problème. C'est une question de référentiel. C'est que dans mon référentiel, ce que je possède, ce que je sens, est à moi. Tu veux faire autre chose? Prouve-le-moi. Explique-moi. Pourquoi? La Torah te dit, peut-être qu'il faut apprendre à réfléchir autrement. Je ne sais pas si on est à ce niveau-là. Mais c'est ce que le Zohar va expliquer. Que Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Baruch Shem Kvod Melechto Olam Ve'ed, ce sont deux approches d'analyser le monde. Une approche par en haut et une approche par en bas. Alors l'approche par en bas, elle est déjà compliquée, c'est pas simple du tout. Mais après, on peut arriver aussi à l'approche d'en haut. Ça veut dire avoir inversé la donne. Pas se poser la question qui me dit que Dieu existe, mais qui me dit que moi j'existe. Que le vrai référentiel, c'est la Torah. Ça, c'est déjà un peu compliqué. Mais c'est faisable. Vous êtes prêts? Il faut qu'on s'accroche là. Hein.
Ah bon.
C'est véritable. C'est
pas comparer le cours. Bon.
On peut dire
que j'existe. Hein, je suis là. Je lis avec vous. Je vous pose des questions. C'est que j'existe. J'ai pas besoin. Qu'est-ce qui va me prouver le contraire?
C'est Benita. Une fois en Russie, vous la connaissez. Vous avez fait ça là avec la Russie?
Pardon?
Une fois. Je crois que c'était avec Pushkin. Une fois en Russie. Une fois en Russie, il y a un professeur qui veut expliquer. Il veut expliquer aux enfants que Dieu n'existe pas. Elle leur dit comme ça. Elle leur dit, dites-moi, camarade, est-ce que la table, vous la voyez? Oui, on voit la table. Est-ce que la chaise, vous la voyez? Oui, on voit la chaise. Donc, il y a une chaise. Donc, il y a une table. Et comme ça, il leur fait, bon, il fait comme on fait à l'école. Après, il fait le tour de la classe. Et il leur montre, voilà. Il dit, est-ce que, bon, tout le monde répond, oui, il y a une chaise, oui, il y a une table, oui, il y a une chaise, etc. À la fin, il leur pose la question, il leur dit, et est-ce que Dieu, vous le voyez? Ils allaient répondre non. Donc, Dieu n'existe pas. Et là, il y a un élève qui sort, il y a beaucoup de traditions sur cette histoire, hein. Il y a un élève qui sort dans la classe et qui s'adresse à tout le monde, il dit, est-ce que vous voyez la main du professeur? Oui, on voit la main. Donc, il a une main. Est-ce que vous voyez le pied du professeur? Oui, on voit le pied. Donc, il a un pied. Est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Non, vous le voyez pas. Donc, il n'en a pas. Bon, évidemment, c'est une blague, parce que si on est vraiment honnête intellectuellement, on te dira, oui, mais je vois pas le cerveau du professeur, mais je vois son expression. Je le vois s'exprimer, je le vois parler. Pour Akadosh Baruch, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Mais c'est la même question. La question est où je mets mon référentiel. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que mon référentiel, c'est moi, ou est-ce que mon référentiel, c'est Hachem? Et là, quand on lit un chapitre comme ça, on se rend compte qu'en vérité, on est... L'homme est égocentrique. C'est vraiment, ça te frappe comme ça, comme un coup de fouet, comme un coup de foudre. Tu dis, mais c'est vrai, tu dis finalement, ça veut dire que tout ce que je définis, c'est par rapport à mon ressenti. D'accord? C'est-à-dire que le gars, tout ce qu'il va définir par rapport aux relations qu'il a avec son entourage, avec ses enfants, avec sa femme, avec son travail, tout ce qu'il va définir, c'est moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça m'arrange, que ça m'arrange pas? Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Est-ce que je trouve que c'est bien ou est-ce que je trouve que c'est pas bien? Tout est moi. Tout est moi, c'est égocentrique. On a été créé comme ça. L'homme est égocentrique. Au point que même Dieu, même quand on te parle de Dieu, l'homme, il est tellement égocentrique que même lorsqu'on te parle de Dieu, il va dire oui, mais qui est Dieu pour moi? Il ne va pas le dire comme ça, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Moi, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne sais pas, tu me racontes qu'il y a des livres, il y a un livre qui me dit que je n'ai pas le droit de le faire. Mais qui est ce livre pour moi? Il y a un Dieu qui a dit, mais qui est ce Dieu pour moi? En quoi il m'engage à moi? Je le dis avec des mots, hein, volontairement, je pousse un petit peu. Mais c'est ça. L'homme est égocentrique. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, on est comme ça. Donc, petit à petit, on apprend à grandir, mais l'homme naît comme ça. À un moment, il faut apprendre à inverser la donne. Au lieu de poser la question, est-ce que moi j'existe? Qu'est-ce que moi j'en pense? Il faut se dire, qu'est-ce que Dieu en pense? Et là, vous allez voir, quand on apprend à réfléchir comme ça, ça change toute la vie. C'est-à-dire que la prochaine fois, par exemple, tu vas t'accrocher avec ta femme, au lieu de te poser la question, qu'est-ce que moi j'en pense? Eh bien, c'est une vraie question, qu'est-ce que j'en pense? Pense comme ci, pense comme ça. Prochaine fois que tu vas t'accrocher avec ton fils, prochaine fois que tu vas t'accrocher avec ta fille, avec ton employé, avec qui tu veux, au lieu de te poser la question, qu'est-ce que moi j'en pense? Tu vas essayer de te poser la question, mais dis-moi, mais qu'est-ce que Dieu en pense de tout ça? Et vous allez voir, vous aurez d'autres réponses. Complètement différentes. Une autre réponse. Quand la question que tu te poses, c'est pas qu'est-ce que j'en pense. Parce que toi, tu sais ce que tu en penses, t'es énervé. Tu vas poser la question, mais qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? C'est-à-dire, tu vas essayer de sortir de ta personne, de t'effacer le plus possible. On est là, on existe, mais tu auras d'autres réponses. C'est ça, Yehudaïla. Yehudaïla, c'est apprendre à réfléchir par en haut. Et c'est pour ça qu'on va voir un tzaddik. Quand tu vois un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il s'est complètement effacé devant Hachem, au maximum que l'être humain peut arriver. Donc quand tu lui poses une question, il ne se pose pas la question, bon, qu'est-ce qu'il me veut Mendy Assouline, qu'est-ce que je vais tirer de lui, qu'est-ce que je vais lui donner, etc. Il ne rentre pas dans cette question. Il se dit, qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Qu'est-ce que Dieu pense? Et tu as d'autres réponses. Tu as les bonnes réponses.
Mais comment il peut tirer à la conclusion?
Non, il n'y a que Dieu lui-même qui peut nous dire les conclusions. Mais ça te donne d'autres lunettes complètement différentes.
Mais au démarrage avec Adam Arishon, lui, il a vu, il voyait tout.
Pareil.
C'était palpable.
C'est qu'Adam Arishon.
Après, il y a eu la faute. Et là, c'est un jeu de piste.
C'est la même question.
C'est un jeu de piste.
Mais c'est la même question. Adam et Chava ne sont pas posé la question qu'est-ce que Dieu en pense.
Ils l'ont vu, ils étaient là.
Mais ils ne sont pas posé la question qu'est-ce que Dieu en pense. Il s'est posé la question qu'est-ce que moi j'en pense. Est-ce que moi j'ai envie de goûter à ce fruit ou moi j'ai pas envie. Il a dit moi j'ai eu envie, il a pris. C'est le passage que je dis. Elle a vu que l'arbre était bon à la consommation, elle s'est imaginée. Donc ça s'est passé dans sa tête, elle a décidé de prendre.
Ils se rendent pas compte des conséquences qu'ils ont fait.
Peu importe, ça c'est des détails ça.
Mais là, il a eu le.
Mais quel rapport Michel, quel rapport? On n'est pas à Damarisson, nous. Posez-leur la question. Mais quel rapport Michel.
Mais
bien sûr qu'on paye.
Non, mais après, c'est un jeu de
ça l'est embryonnaire.
Là, tu poses une question, tu demandes que Dieu existe, que j'existe.
C'est pas la question. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. On n'est pas par notre part à Damarisson.
On sait qu'on n'est rien, de toute façon, déjà. On n'est pas éternel, déjà.
Non, on ne sait pas qu'on n'est rien. Parce que si vraiment on savait qu'on n'est rien, on n'aurait jamais fauté. Ça, c'est des paroles, ça. Paroles, ça. Non, mais c'est vrai.
Aux yeux de Dieu,
moi, je peux vous dire aussi. Non, mais je vais être honnête avec vous. Moi aussi, je peux faire un cours, je peux vous dire on n'est rien. Mais si vraiment je pensais qu'on n'était rien, jamais j'aurais fauté.
Oui, mais pourquoi tant de difficultés?
C'est des grandes paroles, ça.
Pourquoi tant de
difficultés? Ça vaut pas grand chose sur le terrain.
Je pisse, y a rien. Tu viens, tu nais, t'as aucun. Pas une lettre,
c'est faux. On pense pas vraiment comme ça.
Ta éducation de tes parents, s'ils arrivent à encore à t'éduquer.
C'est comme un mari qui arrive devant sa femme et qui dit je suis rien devant toi. Ah pourquoi tu t'es fâché avec elle si t'es rien devant elle? T'es pas rien du tout. Je te raconte des salades. Oui, mais je comprends. Mais si toi tu t'es senti fâché, mais pareil. Si par exemple, on n'a pas eu. C'est que tu te sens que t'as de l'existence.
Tout à l'heure vous avez parlé du.
Vous verrez que tous les problèmes qu'on a dans la vie, dans tous les domaines de la vie, les domaines qu'on maîtrise évidemment, les domaines qu'on maîtrise pas. Tous les domaines qu'on maîtrise, les problèmes se créent à cause de l'ego. Tous les problèmes. À cause de l'ego.
C'est pas si facile.
C'est l'ego. C'est mon ego qui a une certaine façon de voir les choses. Et il y a un autre ou une autre en face de moi qui a une autre façon de voir les choses. Je suis pas d'accord. Et je vais vous dire, ça va très long, même avec Hachem, ça va comme ça. C'est la vérité. Hachem, il te dit, tu ne feras pas ça. Moi, j'ai lui de ne pas le faire. Ok. Hachem, il m'a dit ça. Moi, j'ai envie de le faire. On verra qui aura le dernier mot. C'est moi qui ai le dernier mot.
Pour l'instant.
Oui. Écoute, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y aura en haut.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est la vérité. Parlons, je me fais l'avocat du Yetzer Hara. Tu rends compte. Moi, je te propose des plaisirs cash. Tu me dis, tu sais, en haut, il y aura un enfer, etc. J'écoute, on verra en haut. Je sais que tu racontes des histoires maintenant. Le Yetzer Hara, il te propose du cash. Tout de suite, tac. Ouais. En espèces, il te le donne. Là, tu comprends, mais après, tu devras, etc. Il dit, bon, on verra après. C'est très difficile. Le Yitzhara, il a tous les arguments pour lui. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Je me raconte, il dit, Dieu, on verra. Moi, je suis du pay cash. Il faut apprendre à inverser la donne. À ne pas se poser la question, qu'est-ce que moi j'en pense? Poser la question, qu'est-ce que Dieu en pense? Très dur. Mais c'est le secret. Si tu n'as pas ça, tu tombes.
je suis en conflit avec quelqu'un et je vais demander à Dieu qu'est-ce qu'il en
pense. Non, j'ai pas dit que tu demandes à Dieu.
Toi, dans ta tête, tu dis qu'est-ce que tu en penses.
Tu dis, dis-moi, monsieur Charles, oublie Charles. C'est pas Charles qui se pose la question. C'est pas qu'est-ce que Charles en pense, c'est pas qu'est-ce que j'en pense. Tu te poses la question, tu dis, qu'est-ce que Dieu, si je pouvais poser la question à Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il m'aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit?
Et là, tu vas te calmer, toi,
Tigon. Et là, tout de suite, tu prends d'autres proportions. Ah, alors des fois t'as pas de réponse. Pas de réponse, c'est une réponse aussi. Je sais pas.
Mais c'est compliqué de poser des questions puisqu'il prie tellement par son absence.
Mais je ne pose pas de questions à Dieu. Je me pose la question. Non, qu'est-ce que Dieu en pense?
Non, mais t'envoies des signes, bien sûr.
Oui, on change la donne.
Si je pose la question comme ça, qu'est-ce que Dieu en pense? Ça suppose que j'ai fréquenté Dieu, que je le connais.
Mais non, je m'imagine. J'essaie de m'imaginer. Je m'imagine. Et vous verrez, faites l'essai, je vous promets, faites l'essai, vous verrez. Des réponses.
En gros, on n'a pas de niveau, quoi.
On a le niveau.
Ah non, il faut.
On a le niveau.
On est des Benoni.
On essaie. Faites l'essai.
Bah si. Ouais.
Et quand il vient te demander un conseil, il m'a dit, je voudrais te parler, j'ai un conseil à te demander. Alors je peux me dire, j'ai un monsieur en face de moi qui me pose une question à moi, je vais lui dire ce que j'en pense. Mais ça ne sera pas une vraie réponse. Je peux même dire, je vais essayer de réfléchir, qu'est-ce que j'ai vu dans la Torah. Bon, ce sera aussi une réponse. Tu veux vraiment répondre à la question d'une personne, il faut te dire, bon, oublie Mendy, oublie ce que tu as étudié, pose-toi la question maintenant avec qui tu as étudié. D'après toi, qu'est-ce que Dieu pense à cette situation? C'est une autre dimension, c'est autre chose. C'est un autre regard. C'est un autre regard. C'est-à-dire, tu ne poses pas la question, est-ce que moi j'existe, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je dirais. Qu'est-ce que Dieu en pense?
Tu oublies carrément ton ego, tu te retires,
complètement.
Tu t'effaces. Et là, quand tu
c'est très difficile, mais on peut y arriver. On peut y arriver, bien sûr qu'on peut y arriver. On peut y arriver. C'est là que tu crées une vraie relation avec Kadosh Baruch Hu. Alors on va aller dans les mots. Parce que là, tout ce que je vous ai dit, c'est juste pour introduire ce sujet. Page 93. Veiné.
Il y a une question quand même. Est-ce qu'il accélère les choses pour nous faire comprendre les choses maintenant?
Ça, c'est quelque
chose. J'aurais tout existé.
Je rentre même pas dans cette question. Michel, on va pas s'égarer. Oui. Je rentre pas dans cette question. Ça, c'est les détails. Non, mais c'est les détails, ça. On n'a pas les bonnes lunettes. T'as pas les bonnes lunettes. Change de lunettes.
D'accord.
Mes lunettes, c'est des lunettes, c'est des miroirs. Donc, c'est tu comprends, t'as des lunettes, tu vois, t'as un miroir. Tu vois que toi. Change de lunettes. Oublie. Fais des lunettes où c'est noir ici et c'est éclair dehors.
Il faut aller plus loin.
Il faut prendre du recul. Il faut voir qu'est-ce que Dieu pense de tout ça. Il y a d'autres réponses. Tu vois, t'as un autre regard.
On comprend mieux maintenant. C'est sûr que maintenant, avec le temps, on se comprend que...
Veiné. Allez, on y va. Page 93, on va à la page. Veiné. Même si Akadosh Baruch Hu transcende l'espace et le temps. Donc c'est vrai. Ça aurait été facile de dire, tu sais quoi, Dieu il dépasse le temps et l'espace, du style. Moi maintenant je suis dans le temps et l'espace, ça c'est un monde qui est géré par les humains, d'accord? Les terriens, nous on gère notre monde. Dieu il dépasse le temps et l'espace, ça aurait été tellement plus facile de dire ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ce langage. Ils disent bien sûr je crois en Dieu. Il y a un Dieu qui existe, et bien sûr, je crois que ce Dieu, au-delà du temps et de l'espace, il gère, il fait ce qu'il veut.
On vit pas dans le même monde.
Mais on vit pas dans le même monde, exactement. Ah oui, voilà, exactement. Voilà, c'est la bonne définition. Écoute, Dieu, il est dans son monde, moi je suis dans mon monde, il fait sa vie, un jour je le rejoindrai, bon, il fera un karcher, ou il m'accueillera, peu importe, c'est son problème, c'est mon problème, mais bon, pour l'instant, voilà. Il est là-bas, je suis là-bas.
C'est vrai. Il a tout dit, hein.
Voilà.
Guy.
Yves. Alors, donc, il est dans son monde.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Voilà, il est en dehors du temps et de l'espace. Exactement. Mais quelque part, en disant que Dieu est en dehors du temps et de l'espace, tu l'as renvoyé. Tu dis.
Pas forcément, oui. Bah.
C'est comme tu dis, dis-moi, est-ce que tu vois avoir une personne, tu dis, celui-là, c'est un tzaddik. Mais quand tu dis, c'est un tzaddik, du coup, tu l'as renvoyé du style, il est dans une autre dimension, il est dans cette tour d'ivoire, il peut pas me comprendre, il est pas avec moi. Tu dis, non. Dieu, même s'il est en dehors du temps et de l'espace, il transcende le temps et l'espace. Afal piken quand même ou nimtsa gam le matin makom uzman. Néanmoins, il se trouve également ici-bas à l'intérieur de dimensions de temps et d'espace.
Se transcender, ça ne veut pas dire qu'il est en dehors.
Ah ben oui, parce que
transcender, c'est dépasser, mais c'est-à-dire que tu es.
Oui, mais le piège du Yetzara, c'est que ça rien dit Dieu, il est en haut. Tu sais que tu poses la question aux enfants, tu dis il est où Dieu? Il est en haut, tout en haut. Tu vois le plus loin là-bas, le point le plus loin là. Encore après. Il est au fond, tout au fond. S'il veut, il peut venir. Mais pour l'instant, il est tout au fond. Ça, c'est la façon de voir les choses d'en bas. Tu dis, il est tout en haut. S'il veut, il peut descendre, mais il est tout en haut. La chassidoute te dit pas du tout.
Il est là.
Il est là, Dieu. Il est là.
C'est ça.
Il est ici. Il est là, Dieu. Et la question que tu dois te poser, c'est pas est-ce que Dieu, il est là. C'est est-ce que toi, tu es là. On n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. On n'a pas, parce qu'on n'est pas formaté pour réfléchir comme ça. L'être humain, depuis qu'il est petit, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il est égoïste. Voilà, comme un enfant. Un enfant, il veut quelque chose. Tu lui donnes pas ce qu'il veut. Il crie, il fait une chkamba, il en a rien à faire. Il sait très bien qu'il dérange tout le monde, mais il en a rien à faire. Je veux, tu me l'as pas donné, pourquoi tu me l'as pas donné? Égocentrique à 1000%. Tous les enfants au monde, les plus grands tzadikim, ils sont nés égocentriques. L'homme naît égocentrique. C'est la vérité.
Mais
c'est pas la question. Mais j'ai faim, j'ai pleuré, je veux manger. Je me dis, mais qui va me donner à manger? Comment il va faire? Est-ce qu'il a de quoi? Est-ce qu'il a pas de quoi? L'enfant, il connaît pas ses calculs. Moi, je veux rien savoir. J'ai faim, je veux manger. Et il est où le repas? Il est où le repas? Je connais pas. Parce que l'enfant est égocentrique. Et c'est normal. On est né comme ça. Mais avec le temps, il faut apprendre à changer de lunettes.
À flelou.
À arrêter de voir les choses d'en bas et essayer, tac, de s'imaginer comment les choses sont regardées d'en haut. Autre chose. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, toi, tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est en haut, moi je suis en bas. Bon, chacun son monde. Vous savez comment ils disent les Rechaim? Hashamayim, Shamayim, Lachem, Ve'arei Satan Ibn Adam. Le ciel, il est pour Hachem, et la terre, il a donné aux hommes.
Quel
rapport? C'est dans le Hallel.
On le dit, ça.
Oui, bien sûr. C'est les Rechaim qui disent. On t'explique comment il ne faut pas réfléchir.
Ah, d'accord.
Les Rechaim disent, le ciel, c'est pour Hachem. La terre, pour les êtres humains.
Chacun fait ce qu'on veut.
Choisis ton camp.
Son territoire.
Chacun son territoire. Toi, t'es là-bas, dans le spirituel, moi, je suis dans le matériel. Le jour où je voudrais te rejoindre, je te rejoins. Pour l'instant, tu restes où tu es, je reste où je suis. Et shalom à l'Israël.
Ouais, c'est beaucoup de gens.
Mais on réfléchit tous comme ça. Ouais. Là, je suis venu à la synagogue, parce que j'ai décidé de venir à la synagogue. Je suis venu à un cours de Torah. Il a commencé à 20h30, environ. Il va terminer à 20h45, environ. D'accord? D'accord? Voilà, 21h45. Et c'est fini. Donc là, maintenant, je suis à la synagogue. Je suis rentré à la synagogue. Après le cours, je vais sortir de la synagogue. Et je suis sorti de la synagogue.
Après,
je vais aller voir mon film, faire mes affaires. Prends pas la tête.
C'est pas bien de parler comme ça, lundi.
Donc voilà.
Il a raison.
C'est-à-dire maintenant, je suis rentré. Je suis rentré à la synagogue. Je suis sorti de la synagogue. Maintenant, je me suis pas posé la question. Est-ce que peut-être il y a une synagogue qui est là, qui me lâche pas? Tu peux sortir de la synagogue, mais la synagogue ne sortira pas de toi. C'est pas mal, comprends ça.
Quand.
Mais ça, on réfléchit pas comme ça. J'écoute. Je voulais rentrer à la synagogue. Je suis venu au cours de Torah. J'écoute. Maintenant, il m'a pris la tête avec son cours. Je regardais dans mon téléphone. Je rentre dans mon téléphone. Il me rend intérêt. Je quitte mon téléphone et je l'écoute. Donc, c'est toujours moi. C'est moi qui est rentré, moi qui est sorti, moi qui écoute, moi qui n'écoute pas. Il n'y a que du moi ici. C'est que de l'ego, ça.
C'est
de l'ego.
C'est comme toi, François.
Donc, c'est pas Dieu. Je suis pas venu pour Dieu ici. Je suis venu pour moi. Bah oui, je suis venu pour moi. J'avais envie d'écouter ce que Dieu aime dire. Et quand je sors, j'ai plus envie d'écouter ce que Dieu va me dire. Oui, bien sûr, ça lui fait plaisir. Mais là, la chassidoute, elle explique, il faut passer la deuxième.
C'est quoi la deuxième?
Eh ben, c'est ça la deuxième. La première, c'est de dire, ah, t'as vu, j'ai fait un effort, j'ai fait une mitzvah pour Dieu.
Tu continues quand tu rentres chez toi.
Très bien, c'est pas mal. La chassidoute, c'est bien, kol hakavod, t'as fait un effort, t'as fait un cours de Torah. Kol hakavod, c'est très bien. Ça, c'est la première. Mais à un moment, la première, il faut passer la deuxième.
Vers le malchut.
La deuxième, tu dis pas, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? C'est qu'est-ce que Dieu fait pour moi?
La journée, déjà, ce qu'il a fait pour
nous. Ah, tu imagines ce que j'ai fait pour Dieu, ce que j'ai fait pour Dieu. J'aurais pu faire ça et j'ai fait et je suis venu. C'est vrai? Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait ce soir. Il y avait un match, il y avait quelque chose. Non, pas au Hachem. Hein? Bon, pas au Hachem. T'es venu au cours de Torah, à la Kavod. Mais tu vas quitter le cours de Torah, qu'est-ce qui va se passer? T'es venu au cours, t'es sorti du cours.
Combien il faut donner?
Alors voilà, la chassidoute te dit à un moment il faut apprendre à poser une autre question.
C'est une bonne question. Normalement, sur 24 heures, tu vas donner combien de temps à Hachem?
Elle te dit comme ça, elle te dit finalement. Parce que c'est vrai. J'ai passé une journée entière dans le monde. Je vais être sérieux. J'ai passé une journée entière pour vous montrer, maman, comment cette idée est fondamentale dans la vie. Fondamentale. J'ai passé une journée dans la vie. Bon, bah, au Hachem, t'étais là, t'étais ce matin, t'étais à la prière, t'étais au cours, etc. Après, t'as passé une journée dans le monde, dans la vie. Après, tu rentres à la synagogue, et tu rentres dans une autre dimension. On va te parler de Dieu, on va te parler, etc. Maintenant, la dimension que t'étudies à la synagogue n'a rien à voir avec ce que t'as vécu dans la journée. Ah, la journée, t'étais dans un monde concret. avec des valeurs qui montent, des valeurs qui descendent, avec des grèves, avec des trucs, etc. C'est des chaussures, ça, c'est des choses que tu vois avec tes yeux. Là, tu rentres dans un cours, bon, tu ouvres un livre, on te raconte des trucs, etc. Tu touches des choses que tu ne saisis pas, que tu ne comprends pas. Tu te rends dans une autre dimension. Et là, tu te poses la question, tu te dis, mais quelle est la vraie dimension? Est-ce que la vraie dimension, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui dehors? Ou est-ce que la vraie dimension, c'est ce que j'étudie maintenant dans les livres?
Tu poses la question, c'est
un peu. Non, c'est une vraie question que tu te poses. C'est une vraie question. Parce que des fois, il y a un conflit entre les deux. Des fois, ce que le livre te raconte n'est pas ce que tu vois dehors. Il y a un conflit. Donc, quand il y a un conflit, il faut chercher un référentiel. Quel est le référentiel? Est-ce que le référentiel, c'est ce qu'il y a dehors et la Torah doit s'adapter à ce qu'il y a dehors? Ou est-ce que le référentiel est la Torah et c'est au monde dehors de s'adapter à ce qui est écrit dans la Torah? Le Rabbi toujours faisait la remarque, des fois il recevait des revues, c'était écrit « Science et Torah ». Alors il dit « Pourquoi science et Torah ?» Torah et science. Non, c'est pas pareil. Pas pareil.
C'est la référence, c'est où?
Pas pareil. Science et Torah, c'est-à-dire que la science, c'est la référence. Et on va essayer de voir, est-ce que la Torah peut correspondre à la science? Non. Torah et science. Parlons de la science, pas de problème.
Non. C'est Torah, c'est pas science.
Non. Dieu nous a créé dans un monde dans lequel on doit analyser ce qui va autour de nous. La science n'est pas impure, c'est pas impure la science.
Je parle
pas.
Bien sûr,
bien sûr.
Non, mais il faut pas.
Mais il faut, mais c'est pas Avodah Zarah la science. Après, il faut voir comment ça correspond. Au contraire. Ah, c'est vrai, effectivement, il y a des courants religieux, il y a des courants orthodoxes qui te diront, il y a pas de science, ça n'existe pas. Ça, c'est pas l'approche du rabbi. Le rabbi te dit non, la science existe.
Bien sûr.
Et je veux dire plus que ça, on peut même s'en servir pour servir un Kadosh Baruch Hu. Mais
la science, elle émane de la Torah.
Mais attends, exactement. Torah et science, pas science et Torah. Change de lunettes. Pose pas la question. Est-ce que le monde dans lequel quand tu rentres dans un cours, tu vois des choses qui ne correspondent pas, tu dis qu'est-ce qu'il me raconte? Il raconte Dieu, pas Dieu, etc. Tout est annulé. Ça ne correspond pas à la journée que j'ai eu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va rajouter dans mon compte en banque tout ça? Quel rapport? Tu comprends? Tu vas sortir, tu vas dire bon, concrètement, tu ouvres le compte en banque, c'est la même chose. Il n'est pas bougé le compte en banque. Tu vas raconter tout tes quoi? Non, je ne peux pas. C'est la vérité, c'est des vraies questions. Mais bon, mon compte en banque, il n'a pas changé.
Ça c'est
Yehuda Tatar. Ça, tu regardes les choses d'en bas. Non, c'est une question sérieuse. Oui, tu dis, bon, ce que j'ai vu, mais moi, je regarde les choses d'en bas. Alors, j'attends de voir. Voyons voir. Ah bon, bon, montre-moi. Je veux voir comment, effectivement, les mitzvot, ça va changer quelque chose dans ma vie. La chassidut te dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est le contraire.
À côté de ça, il y a beaucoup de gens qui étudient, comme tu dis, dans les chivotes, etc. Et après, qu'ils sont toujours amenés à chercher à droite et à gauche pour subvenir à leurs besoins. Et il faut bien le monde matériel pour les aider.
Je ne dis pas
que c'est pas bien.
Je n'ai pas dit que je fais abstraction du monde matériel. Non. C'est pas ce que j'ai dit.
Mais à un moment donné, parce qu'ils veulent rentrer dans ce monde-là.
Il y a des gens qui trichent. Ça s'appelle ça de la triche. Ah. Il y en a qui trichent. Comme le monde matériel les dérange.
Je ne crois pas. Ça veut dire.
Comme le monde matériel les dérange, ils disent on va fuir le monde matériel.
Ah, donc ça veut dire qu'ils y croient pas.
Ça, tu triches.
Ils y croient pas. Quoi,
parce que finalement, tu fuis le problème. Tu dis le monde matériel, je vais le fuir, mais ça n'existe pas. Mais il est là.
Il est présent.
Il est là. C'est quand même personne qui est malade, qui veut pas aller voir le docteur. Comme ça, il veut pas entendre qu'un docteur lui dit, monsieur, vous devez soigner ça.
Donc, vaut mieux être sincère.
T'as triché.
Vaut mieux être sincère.
T'as triché parce que c'est faux. Le problème n'est pas réglé.
Un déni.
Vaut mieux être sincère.
Alors, la chassidoute te dit non. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Il n'y a pas de déni. Il faut faire les choses. Il faut faire ce qu'il faut faire. Et s'il faut aller voir un docteur, il faut aller voir un docteur. La question n'est pas est-ce que je vois le docteur. La question est comment moi je vois la chose. Est-ce que j'ai un regard matériel qui essaye de suivre le spirituel, ou j'ai un regard spirituel que j'essaye de faire correspondre avec le matériel?
Il faut être entier.
Ça change tout.
Être entier dans ce que tu fais.
Le référentiel change tout. Ça change tout.
Bien sûr,
parce qu'automatiquement, tu sais que la Torah est vraie. Automatiquement, tu sais que ce qu'Akadosh Baruch Hu dit, ça marche. Et que si Akadosh Baruch Hu dit que celui qui respecte le Shabbat, celui qui fait les mitzvot, il aura tout ce qu'il faut. C'est la vérité. Ah, pourtant, on le voit pas. Alors, ok, la question n'est pas sur le bon Dieu. La question est sur moi. J'ai pas compris.
Il y a des gens qui disent je m'entraîne 5 heures par jour à faire du sport. Et c'est impossible de faire 5 heures de sport d'affilée.
C'est comme dans.
Non, ouais. Mais 5 heures, ton corps est physique.
Vous savez, c'est comme dans les mamarim de Chassidut. Même dans le Tania.
Si tu donnes 1 heure, 2 heures de
quand tu étudies un texte, c'est encore une fois une question de référentiel. Je m'arrête beaucoup dessus parce que je pense que c'est fondamental. Après, on avancera un peu plus dans les mots. Vous savez, quand vous étudiez un mamar de Chassidut, première chose qui frappe ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est que quand on te pose une question, on dit pas vécaché, on dit pas c'est dur. On dit vétsarich lavin, il faut comprendre. Et quand on te répond, on te dit veillez Shlomar, il faut expliquer. C'est-à-dire comme ça. Quand tu poses une question, comment tu poses une question? Quand il pose une question, il dit bon, vais cacher, c'est dur, il y a un problème. Et tu réponds, tu dis non, j'ai trouvé une réponse.
Faut chercher.
Ça, c'est comment celui qui regarde les choses avec les lunettes d'en bas. Il dit, j'ai ouvert la Torah, j'ai vu texte A, texte B, les textes se contredisent. Donc, les textes sont cachés, ils sont durs. Et je vais répondre, je dis non, il y a quelque chose qui reste, que les textes ne se contredisent pas. La Razalut dit, c'est pas comme ça qu'on pose la question. Prenez depuis le premier chapitre du Tanya, la façon comment il pose une question. Il dit pas les textes se contredisent. Il dit Vetzarich Lavin, il faut comprendre. Ça veut dire que le texte n'a pas de problème.
Faut se poser.
Qui a un problème?
Toi.
C'est moi qui ai un problème, j'ai pas compris. Vetzarich Lavin, il faut comprendre. C'est autre chose si on réfléchit comme ça. C'est, le texte dit vrai.
Il peut écrire ce qu'il veut alors.
Mais pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que dans mon référentiel, le texte a raison. La question n'est pas est-ce que le texte a raison ou pas. La question est-ce que moi j'ai réussi à comprendre ce que le texte a dit. C'est autre chose.
Faut que tu te poses.
Claude, là automatiquement t'as un autre regard, t'as un autre respect, t'as une autre dimension, c'est autre chose. Tu dis bon, ça c'est un texte qui est kadosh. Ça c'est le mot qu'Hachem t'a donné au Har Sinaï. Ça c'est du dur, ça c'est du solide, ça c'est ton vrai référentiel. Toi t'as pas compris, alors bon, fais tchouva, fais teilim, pleure, demande à Hachem de t'aider à comprendre, ouais, peut-être comprendre un petit peu. Ne dis pas, j'ai pas compris, c'est des bêtises. Qui tu es pour dire ça? Non, pas des bêtises, mais bon, j'ai pas compris. Ok, t'as pas compris, c'est un problème, t'as pas compris. Ne dis pas, ce texte est compliqué, ce texte ne marche pas. Le texte il marche très bien, c'est pas qu'un problème.
C'est ça qui marche. Après, il faut savoir des chiffres.
Et c'est encore une fois, changement d'approche. Quand t'as un enfant qui étudie, quand un enfant il écoute quelque chose, un professeur, il dit j'aime pas ce professeur. Une fois l'enfant il dit j'aime pas ce professeur. C'est pas clair ce qu'il dit. Tu dis mais je comprends pas, c'est quoi t'aimes pas ce professeur? La question n'est pas est-ce que toi tu es le professeur ou pas. La question est-ce que t'as compris ce que le professeur il t'a dit ou pas. Et là c'est une autre dimension encore une fois. Il faut s'habituer à réfléchir comme ça. Changer de référentiel. Changer de paradigme, complètement. Oui, Joseph, pardon, vous voulez dire quelque chose?
Je disais que le texte, comme il est écrit, il a été pensé. C'est-à-dire que c'est à nous de le faire parler, justement, ce texte-là. Qu'on n'y comprend rien au départ. On est comme un enfant devant un texte, comme moi. Et parfois, bien expliqué, il ressort au deuxième ou troisième degré des choses que je n'avais pas vues avant. Je dis, mais c'est ça qu'il a dit. C'est ça que le texte nous dit de penser, quoi. Donc la question, elle est complètement différente. Là. Ça veut dire que, je reviens comme au début, si tu veux, dans le texte, il y a des choses cachées que lui, en traduisant tout ça, il a sorti de son cerveau à lui, mais c'était pas notre cerveau à nous. Donc c'est à nous d'essayer de réfléchir.
C'est un cerveau divin.
Où est-ce qu'on en est?
Une fois, le rabbi a répondu à quelqu'un qui étudiait le Tanya. Il y a quelqu'un qui a écrit au rabbi, qui a dit j'ai étudié le Tanya et j'ai rien compris.
Ah non, faut pas dire ça.
Sinon, attendez, écoutez la réponse. Alors, le rabbi lui dit comment vous étudiez le Tanya? Il dit j'ai étudié seul.
Ah ouais,
attendez, alors le rabbi lui dit imaginez une personne qui va prendre la médecine. Il va ouvrir un livre de médecine, il va regarder comme ça, il va tourner quelques pages, c'est du français. Enfin, c'est du français avec des mots en latin, mais c'est du français. Il va chercher, etc. Il va tourner les pages, il va dire j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Il faut trouver un prof. Hein.
D'abord, il faut avoir un prof. Il faut passer une fois, deux fois, trois fois. Après seulement tu commenceras à dire ce que tu en penses.
Il faut apprendre à
Faut d'abord te poser la question qu'est-ce que le texte est en train de dire ici?
Le chômage fait pareil, il va prendre le chômage, il va lire la traduction.
Oui, bon, chômage,
j'ai lu la Bible.
J'ai lu la Bible. Oui, qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que t'as compris?
T'as rien compris.
T'as lu ce que t'as compris ce que t'as cru comprendre. Mais tu t'es pas posé la question, qu'est-ce que le texte veut me dire ici? Qu'est-ce que le texte raconte? Qu'est-ce qu'il veut ce texte? Ce que toi t'en penses, on en a rien à faire. La question c'est qu'est-ce que le texte veut dire?
D'accord.
Ça c'est une autre approche. Et je vous promets, faites l'essai, vous allez voir, ça change la vie ça. Cette démarche, on n'arrive pas toujours à le faire. J'ai essayé quelques fois, des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Mais quand on arrive à le faire, ça fait des merveilles.
Automatiquement tu prends du recul.
Quand t'arrives à le faire, à réfléchir comme ça, et ça demande beaucoup d'efforts, mais quand t'arrives à le faire,
quand
tu arrives à rentrer dans le
texte, alors. Tu n'arrives plus le problème. C'est merveilleux.
On continue. Donc, c'est ça le chidouche qui veut dire ici. Que même si Akadosh Baruch Hu, il transcende l'espace et le temps, en vérité, il se trouve dans le monde. Daïnou, ça veut dire chez Mitiachet de Midat Malchuto. Je tourne la page, 94. Daïnou, chez Mitiachet de Midat Malchuto, chez Menem Meshach Vindavé Amakom Vazman. Ça veut dire que Dieu est uni avec son attribut de royauté d'où sont issus et créés le temps et l'espace. Et ça, c'est le degré inférieur d'unité. Alors là, il va expliquer comment trouver Dieu. Comment tu trouves Dieu sur la terre? Il y a deux façons. Première façon, c'est de dire, bon, je vais essayer de trouver Dieu dans tous les domaines de ma vie. Je vais essayer de voir comment Dieu se trouve partout. Et quand tu cherches, tu trouves.
Par exemple.
Tu vas voir comment Dieu gère ta vie, comment, par exemple, tu vas réfléchir juste sur ton corps. Tu me filmes, c'est vrai, mais tu me dis, comment je respire? Comment ça fonctionne?
Ah oui,
mais voilà. C'est-à-dire, tu vas réfléchir pour trouver Dieu dans ta vie. Et tu vas le trouver. Quand tu t'imagines, que t'as des gens que pour quelques secondes, ils n'arrivent pas à respirer, ils partent, tu préserves. Et nous, on est machines, ils font tac, 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 ils fonctionnent. C'est quand t'as, mais maintenant, respirer, est-ce que vous vous rendez compte que vous respirez maintenant?
Non, c'est bon, c'est naturel.
On n'y pense même pas, c'est naturel. Naturel. Ouais, je parle même pas de manger, respirer. Quelque chose d'aussi, ça me respirer. Combien de temps on peut tenir sans respirer?
30 secondes. Hein? 1000.
Mais les professionnels peuvent tenir
6
minutes.
Ouais,
mais... C'est énorme, 6 minutes.
Il y en a un sur 1000. Hein?
Ouais. Combien... on tient quelques minutes, pas plus. Dieu préserve.
C'est
un miracle. Comment ça fonctionne? C'est un miracle. Seulement, ça c'est Hirudatata. Hirudatata, c'est de dire, écoute, moi j'arrive pas à mettre les lunettes pour voir les choses d'en haut. J'ai toujours mes lunettes qui ont les choses d'en bas, donc je vais essayer de voir avec mes lunettes d'en bas comment je vais trouver Dieu partout. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà compliqué ça. Ça c'est Echad. Il y a Echad et il y a Vaed. Echad c'est de dire, écoute, moi je n'arrive pas à voir les choses d'en haut, j'arrive pas à prendre tellement de recul, c'est trop difficile pour moi. Mais par contre, une chose que je peux faire, c'est essayer d'analyser ce qu'il y a autour de moi et d'observer et de voir comment Dieu se trouve partout. C'est déjà pas mal.
C'est pas mal.
C'est pas mal déjà. Ça c'est la première. De voir comment Dieu se trouve partout. Il y a des signes quand tu les cherches. Il y a des signes. Mais encore une fois, le problème, c'est que ça reste encore égocentrique. C'est que c'est moi qui vais les voir, qui va chercher les signes, qui va les trouver ou pas. Ou pas. Ça, c'est Ihudatata. Je démarre par en bas. Je dis, moi, je suis là. Je vais essayer d'observer. Je vais essayer d'analyser comment Dieu se trouve. Parce que Dieu se trouve. Il est là. Même si Dieu transcende le temps et l'espace, Dieu se trouve ici. Donc, je vais le chercher. Et je vais le trouver. Je dis ici. D'aïnou. Donc, Kibashamay Mimal, on va à la page 94. Kibashamay Mimal, ou va arrêter les délais de citrine. Car dans les cieux en haut, et dans les quatre directions, Akol Malé Meorensov Aurub et Shavim Mamash, tout est rempli de la lumière d'Ensov de manière identique. Dieu est partout. Il faut le chercher. Alors je vais le chercher. Avec mes outils. Je vais essayer de voir comment Dieu est partout. Et on trouve. Dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas une chose dans laquelle tu ne peux pas trouver l'énergie divine. Kikar ou Baaret Mitachat Kimashamay Mimal Mamash. Que je vais arriver à la conclusion que Dieu se trouve en bas comme il est en haut. Qui accole au prinat makom avec une suite de Bantsabarou et de la Vejbol et de Mizam Ruto à Miyuchadet Boit Barer. Car en fait, ce qu'il explique ici, c'est que quand tu réfléchis bien, tu comprends que même l'espace et le temps que tu vois autour de toi est généré par Akadosh Barou. Seulement, Dieu s'est caché. Ok? Dieu s'est caché. C'est ça le passou qui dit Ani Hashem Lo Shaniti. Il y a un verset qui dit Hashem dit, moi Dieu, je n'ai pas changé. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, tu peux le trouver partout. Ça, c'est Ihudatata. C'est le dire, je vais observer Dieu par mes outils, avec mes yeux, je vais analyser, je vais me poser la question, comment je retrouve Dieu dans ma vie. Et on trouve. Retracez votre vie depuis votre enfance. Et essayez de vous poser la question, à quel moment on a vu Dieu. Vous verrez, il y a des réponses, on trouve. On dit, c'est vrai, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une présence, j'ai senti qu'il y avait un rebondissement, il y avait ci, etc. On a vu qu'il y avait Hachem. Mais, ça reste encore une fois une approche égocentrique. C'est-à-dire, c'est moi qui cherche Dieu. Qui trouve, mais c'est moi qui cherche Dieu.
C'est-à-dire quoi quand tu dis égocentrique?
Ça tourne autour de moi.
C'est-à-dire
c'est moi. C'est mon ego, c'est moi qui a cherché, c'est moi qui a trouvé, c'est moi.
Ce que tu fais, c'est toi.
C'est moi.
Il n'y a personne d'autre.
Et ça veut dire que dans une approche comme ça, le jour où je n'arrive plus à trouver, je n'y crois plus. Voilà, c'est le jeu.
Oui, c'est normal. Oui.
Ça, c'est quand on a les lunettes d'en bas. Il faut changer de lunettes. Il faut prendre les lunettes du Tania.
C'est compliqué, ça.
Ben voilà.
Tu fais les réglages, tu sais, dans
le Écoutez, là, on est chapitre 13 de Chahé Roule. On monte en puissance, là. C'est très difficile.
C'est compliqué, David.
T'as l'autre sens, que quand Dieu va chercher. Même ces personnes qui l'ont besoin. Et les prophètes, par exemple.
Mais vous croyez vous croyez qu'un prophète devient comment un prophète?
L'agent qui a pour
vous. Vous croyez qu'il est prophète comme ça, il est prophète?
Non, mais quand tu lis l'histoire de Moïse, par exemple.
Mais comment Moïse est devenu Moïse? Il a bossé!
Non, mais il a bossé.
Il avait une échama qui. Non, mais attendez. Il avait une échama qui était conçue pour.
Oui, il a vécu dans l'opulence, au palais.
Écoutez, Moïse, je vais être un peu cru, mais Moïse aurait pu devenir Korar sans aucun problème.
C'est clair. Mais lui-même au départ, il n'y croyait pas.
C'est pas qu'il ne croyait pas, c'est qu'il aurait pu. Il aurait pu devenir Korar, il aurait pu devenir Bilam.
Comme on a vu, ils savent comment il est devenu. Qu'il a eu le potentiel pareil. Que...
Bon, ouais, sens, ce
c'est qu'ils ont potentiel, c'est tout.
Non, c'est, voilà, bon, comme tu dis.
T'as un potentiel, c'est qu'est-ce que tu en fais ? Faut bosser.
Non, après, c'est sûr que quand il a dit ok, c'est bon, je vais faire le job.
Bien sûr qu'il a une sensibilité que moi je n'ai pas, que nous on n'a pas. On n'a pas cette sensibilité. Mais il n'empêche qu'il a bossé.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Mais ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a bossé pour
il a
dire.
Il a cherché pour y aller au départ. C'est Dieu qui a été le chercher. Toi, tu dis nous, on doit chercher Dieu.
Mais voilà. Mais attendez, Moshar Benou, il était là. Moshar Benou, il est là. Il se cherche constamment. Quand il est là, il est dans le palais tranquille. Il manque de rien. Il sort pour voir ses frères.
Mais là, il prend conscience.
Ça veut dire qu'il sort, il cherche. Il cherche quelque chose.
Oui, à un moment donné, il y a un dévoilement.
Bien sûr qu'il cherche. Ça part la semaine prochaine. Il cherche. Évidemment qu'il cherche quelque chose.
Mais Dieu l'a choisi à lui.
Il n'est pas dans l'opulence, il n'est pas dans le jeu. Le mec est dans le jeu, il dit. Attendez, vous savez que Moïse, il était voué à remplacer Paro. C'était le chouchou.
Non, mais la question.
Il était brillant.
Il n'est pas là, il était voué à remplacer.
Mais Moïse, il cherche.
Il y a des gens qui se réveillent et disent ah, Dieu, je vais t'aider, dis-moi ce que je dois faire. Non. Lui, il n'a pas cherché comme ça au départ. C'est pas son job.
Il cherche.
Non, mais c'est pas pareil. Quand Dieu vient vers toi. Non, viens te chercher parce qu'il connaît tes facultés, tes capacités.
Dieu t'envoie des signaux, mais si tu bosses pas, il y aura rien du tout.
Il y a beaucoup de gens.
C'est ça qu'il faut expliquer aussi aux enfants, tout le monde. Tu bosses pas, il y aura rien. Même si t'as les plus grandes capacités, tu bosses pas, t'auras rien.
Oui, il connaît les gens, il connaît.
Tu bosses pas, t'auras rien, zéro.
Il sait qu'avec lui.
Combien de gens on a connu? Avec le peu d'expérience que j'ai vu des gens qui avaient des grandes facultés, zéro.
Feignant.
Zéro, et ça a rien donné. D'autres personnes qui avaient beaucoup moins de facultés, ils ont bossé, ça a donné.
Travail.
Aujourd'hui, je rencontre des jeunes. Hanouka, j'ai rencontré des jeunes. Des jeunes que j'ai vus ici connaître. J'ai vu ici grandir. J'ai eu 13e. Démarré ici, on leur donnait cours ici. 13 ans, 14 ans maintenant. Voilà, 10 ans sont passés. Tu vois qu'ils sont devenus. T'as des surprises.
Bien comme moi.
Des surprises complètes. Des gens que tu t'imaginais, c'était un cancre. Tac, il a percé. Après, je sais pas, bon, c'est pas mes référentiels, mais les grandes écoles, etc. Jamais j'aurais pensé. Jamais. Oui, j'aurais pas mis un rond sur lui. D'accord. Et d'autres. Tu pensais que il y a rien du tout, zéro. Et là, tu peux pas savoir ce que ça va donner. Il faut travailler. Travaille pas, t'as rien. À la même façon, tu veux pas un avis comme ça. On n'a pas un prophète comme ça. Tu veux un prophète, des gens qui ont travaillé. Ils ont travaillé pour changer leur regard, pour voir les choses différemment.
D'en bas, comme.
Et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Un tzaddik est une personne qui travaille constamment pour s'effacer. Et on peut le faire. On n'est pas des tzaddikim, mais on peut le faire. On peut s'habituer à changer notre regard.
Comme tu as dit, il faut chercher
les valeurs. C'est comme le rabbi, les dernières années, il parlait beaucoup de Mashiach. Il parlait beaucoup de Mashiach. Comment Dieu, il n'est pas bien. Dieu, il n'est pas bien. Dieu, il est mal à l'aise. Il manque quelque chose de Mashiach. Mais nous, on ne réfléchit pas comme ça. Dis-moi, moi, je suis bien, il ne manque rien. C'est-à-dire, tant que moi, il me manque rien, pourquoi tu veux que je cherche Mashiach? Qu'est-ce que je me prends la tête? Tu me dis, la Shrina, elle n'est pas bien. Ben, la Shrina, elle a qu'à se débrouiller. Je me prends la tête pour la Shrina, moi. Elle a qu'à se débrouiller. Mais le rabbi dit, il ne faut pas réfléchir comme ça. Dieu va mal. Mais on ne réfléchit pas comme ça. Nous, on n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. Nous, on se dit, bon, écoute.
Pour accélérer les choses, s'il veut.
On se dit, écoute, moi, ce qui compte, c'est que j'ai ma petite parnassa, ma petite famille, tranquille. Bon, Dieu, Mashiach, il reste débrouillé. Il va envoyer, vas-y, envoie, on verra ce qu'on fera, qui vivra, verra. C'est vrai, c'est vrai. Les gens, ils pensent à Mashiach comme s'ils allaient gagner au loto, et encore. Ils disent, bon, on verra. Est-ce que quelqu'un ici s'imaginait un jour s'il gagnait au loto? Je sais pas, pourquoi pas? J'ai gagné, on verra bien.
J'ai essayé, mais.
Pourquoi pas? Peut-être ça marchera un jour, ça va marcher, je vais gagner, pas gagner. Mais c'est pas réaliste, c'est un peu partie de ta réalité. C'est pas quelque chose de concret. Tu t'endors pas avec ça, tu te lèves pas avec ça.
Bah oui.
T'en as rien à faire. Tu vas pas mal t'endormir parce que t'as perdu au loto, parce que t'as jamais compté gagner au loto.
C'est vrai, c'est bien.
À la même façon. Pourquoi ça te dérange pas? Ça me dérange pas que ma chère n'est pas là. Parce que je me suis pas endormi avec ma chère, donc je vais pas me réveiller avec ma chère. Ça me dérange pas. S'il est là, pourquoi pas? C'est bien, on fera des belles choses. Mais il est pas là, bon, la vie va continuer. Parce qu'encore une fois, on n'a pas les bonnes lunettes.
Est-ce que t'es un opticien?
C'est le Tania. Bien sûr,
c'est... Il faut bien ouvrir les yeux.
Une fois, on est venu voir. Je crois que c'était Rabbi Menachem Mendel de Horodok qui habitait en Israël. Il venait d'Ukraine, il est arrivé en Israël. On est venu lui annoncer, on lui a dit Mashiach est venu. Vous savez, il habitait à Tzfat. Tzfat, il y a beaucoup de gens un peu. Vous avez déjà été à Tzfat? écoute, j'ai un petit peu, hein, un peu zinzin comme ça.
Ah bon?
Il y a beaucoup de Kdusha, non? Il y a beaucoup de Kdusha, c'est comme la lumière. La lumière, ça tire les mouches. Comme ça, il y a beaucoup de gens. Non, non, des gens un peu zinzin, quoi. Un peu. Non, des gens très intelligents, des fois, mais qui.
Je suis allé, ouais.
Bon. Alors, il entend, on vient, on dit, écoutez, Rabbi, il paraît que Mashiach est venu. Il y a un qui dit Mashiach, etc. Tu rappelles David, le gars qui était venu chez toi au restaurant, qui avait dit je suis Mashiach.
Le grand,
David, il avait dit, il l'a envoyé, David. Il l'a envoyé.
Mashiach, c'est important. Ouais.
Dis bonjour, je suis Messi. T'es venu, pas quelqu'un qui a sonné chez David, et au restaurant. Alors David, il a dit à Mashiach, c'est la porte en face. Il est venu sonner, et moi, je vous la porte. Et je vous la porte, et un jour, il pleuvait, je crois, il pleuvait.
Il y a longtemps.
Hein. Un jour, il pleuvait. Ça fait 8 ans ou 9 ans. Je sais pas ce que c'était, ouais, ça doit être un non-juif, peu importe. Il dit bonjour, monsieur le rabbin, je suis le Messie. Je dis ah bon, c'est le Messie. Je dis dites-moi, est-ce que vous pouvez me donner du soleil maintenant? Il dit non, aujourd'hui je peux pas, demain si vous voulez. Je dis alors revenez demain.
Ah tu es
à la porte, il m'attache à la porte, il dit à la porte, vas-y. Il dit bonjour, je suis Messie. Le gars avec un, il a des lunettes, hein, comme ça. Je dis bonjour, je suis Messie. Complètement. Mais complètement, moi, le gars était. Il pleuvait, il était trempé. Il dit bonjour, je suis Messie. Oh, t'as des gens comme ça.
Donc il y a un mec qui est venu voir un jour Rabin.
Quoi?
Aspa, tu as dit je suis.
Alors voilà, il est revenu à Rabin de Rodok. Non, il n'est pas lui. On est venu annoncer à Rabin de Rodok qu'il y a Mashiach est là. Rabbi Nachman de Rodok, il a ouvert la porte, la fenêtre de sa chambre. Il a senti. Il dit non, Mashiach n'est pas là.
Ah, il sent.
Alors une fois, le Rabbi il a posé la question. Il a dit mais pourquoi il a besoin d'ouvrir la fenêtre de son bureau, de sa chambre, oui, pour sentir Mashiach? Il aurait pu rester dans son bureau et sentir. S'il sent, il est là, il sent pas, il est pas là. De là, on comprend que dans son bureau, il y a l'odeur du Mashiach.
Mais ça aurait pu être lui.
Non, écoutez bien. Que dans son bureau, il y a l'odeur du Mashiach.
Et dehors, il n'y avait pas.
Donc, du coup, pour lui, son indicateur, pour savoir si c'est Mashiach ou pas, c'est qu'il ouvre la fenêtre, il dit, non, dehors, il n'y a pas Mashiach, parce qu'il n'est pas encore là. Mais dans son bureau, il y a Mashiach, l'odeur de Mashiach est déjà là. On dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Beth Amidosh n'a jamais été détruit.
Ah bon?
Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans le genre, il dit, pour moi, le Beth Amidosh n'a jamais été détruit.
Pourtant,
il a vécu, là, son Beth Amidosh, il a pleuré, il n'a jamais été détruit.
Il le voit.
Il est là pour lui, il n'a jamais été détruit. Encore une fois, ce sont des tzadikim qui ont réussi à changer. Et c'est pas des gens qui sont dans l'illusion, c'est les géants qui ont changé leur, ils ont changé leur façon de voir les choses. Ils disent bon, je parce que je touche pas les pierres, il est pas là. Ok, j'ai pas touché les pierres. Ok, bien sûr, je suis en deuil que tout le monde peut pas le voir, mais moi je le vois, il est là.
Imagine si le mec il voit ça en 3D, juste le fait d'être une pierre.
Mais nous on voit pas les choses comme ça. Nous on a pas ces lunettes. Nous on dit écoute, je le touche. Il y a de la pierre, je rentre, je vais pas amener mon corban, tant mieux, il n'y a pas de pierre, bah, il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Il n'est pas là? Parce que tu vois pas, il n'est pas là? Moi je le vois, il est là. Ça fait beaucoup réfléchir ça. Moi les tzadikim, ils ont un autre regard. On n'est pas à ce niveau-là, vous avez raison. Et nous, déjà, on est déjà dans les choudatata. C'est déjà d'en bas, essayer de voir Kadosh Baruch Hu, c'est déjà compliqué. Mais il faut. Si l'Admor Hazaken, le Rabbi dit que si l'Admor Hazaken nous parle de ça dans Shaykh de Emouna, c'est qu'on peut y arriver. Au moins dans certains domaines de notre vie. Vous savez que l'Admor Hazaken, il a écrit un Sefer chez le livre de Benoni. Il avait écrit aussi un autre livre, Sefer chez le Tzadikim. Un livre de Tzadikim. Et il a été brûlé ce livre. Il y avait eu un grand incendie à Lubavitch. D'accord? Pas à Lubavitch, enfin à Liozna, et ce livre a été brûlé. Et l'Admor Hazaken a compris que c'est un signe du ciel que. Ce livre ne devait pas être publié. Eh bien, il y avait le livre de Benoni, il y avait le livre de Tzadikim. Et ce livre n'a pas été édité. Parce que Hachem a voulu faire comprendre que ce livre-là, c'est pas le moment. Donc ça veut dire que tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est pas pour les Tzadikim. C'est pour tout le monde. Donc si dans ce livre on te parle de choses comme ça, c'est que tu peux atteindre ça.
C'est un apprentissage.
Une fois, le Rabbi il a fait une tira sur une histoire, on raconte. Que le Rabbi Rachab, quand il était petit, il est venu voir son grand-père, le Rabbi Tzimar Tzedek. Il étudie la Parasha Vaïra. Il lui a posé la question, il lui a dit, il avait étudié à l'école, on l'a vu qu'Akadosh Baruch Hu est apparu à Abraham. Il est Abraham. Alors l'enfant, il est rentré, il a posé la question à son grand-père. Il a dit, comment ça se fait que Dieu est apparu à c'est le rabbi de Saint-Marcède qui a posé la question à Admor HaZaken. Comment c'est que Dieu est apparu à Abraham et il n'est pas apparu à moi? Une question puissante. Bon, son grand-père lui a répondu, il a dit, lorsqu'un juif, un tzaddik, décide à l'âge de 99 ans de faire sa brit mila, alors Kadosh Baruch Hu mérite que quelques jours se dévoile lui. Non, le rabbi dit, il ne faut pas s'arrêter sur la réponse. La réponse, c'est une bonne réponse, mais il faut s'arrêter sur la question. Comment un enfant de 4 ou 5 ans peut poser une question comme ça? Pourquoi on nous raconte à nous cette histoire? Parce que quand tu lis une histoire comme ça, tu dis, mais est-ce que je peux arriver à une possibilité que mon fils de 4 ou 5 ans me pose cette question? Qu'il vienne me voir en pleurant, il est venu en pleurant, et qu'il me dise, pourquoi Hachem s'est dévoilé à Avraham Avinu et qu'il ne se dévoile pas à moi? Est-ce que je peux arriver à ça, moi, avec mon fils? Si je ne pouvais pas y arriver, on ne m'aurait pas raconté cette histoire. Cette histoire serait restée à la panel de Sadikim. Si le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi nous a raconté cette histoire, c'est qu'ils estiment qu'on peut arriver à un niveau comme ça. On peut arriver à une éducation de notre enfant de façon à ce que l'enfant ait les bonnes lunettes et que la question qu'il pose, c'est pas est-ce que j'ai eu mon jeu, est-ce que j'ai eu ma déesse ou je sais pas les trucs qu'ils ont. La question que l'enfant va te poser, c'est pourquoi Dieu est apparu à Abraham et pas apparu à moi.
Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui posent cette question. Ah ouais.
Tes enfants, mais
bon. Mais non, ils sont, pas encore, c'est Amen.
Mais il y en a, ils ne sont pas tous 5 ans encore.
Ouais. C'est énorme, c'est grandiose. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, voilà.
On va pas lui souffler Shabbat pour qu'il aille lui poser la question.
Est-ce que nous-mêmes, est-ce que moi, quand j'étudiais la paracha Vaïra, ça m'a dérangé que Dieu est apparu à Abraham et qu'il n'est pas apparu à moi? Ça me dérange pas parce que je dis Abraham est un géant. C'est un patriarche. Shamaim, Shamaim, Lachem. Avraham est tout en haut. Vas-y. Plus loin. Ça me dérange pas. Plus loin il est, mieux je me porte. C'est un grand sadique. Le rabbi te dit non. C'est pas comme ça qu'on voit la Torah. Torah, tu dis, c'est moi, qu'est-ce que j'en pense de ça? Qu'est-ce que moi, j'en dirais de tout ça? Grande question. C'est exactement ce qu'il dit ici, le Tanya. Tu dis que t'as Ichuda Tata, Ichuda Ila. T'as la façon de voir les choses par en bas, regarder les choses par en haut. Regarder les choses par en bas, c'est de se dire, j'essaie de voir Dieu partout. C'est pas mal. Regarder les choses par en haut, c'est de se dire, je vois pas ce que moi j'en pense. Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu en pense de tout ça? C'est notre approche. Là, quand tu lis un chapitre comme ça, bon, parce que là, je vous ai expliqué pas mal de choses à l'oral que le rabbi explique dans le commentaire. Quand tu fais un chapitre comme ça, là, tu comprends que le tzadikim, c'est une autre ligue. C'est une autre ligue. C'est autre chose. Non, c'est comme, tu regardes un match, tu comprends. Il y a des fois des actions qui se passent. Là, tu comprends que ça, c'est une autre ligue. C'est pas seulement qu'il joue mieux que moi. C'est une autre ligue. C'est autre chose. Rien à voir. Il n'y a rien à voir. Ça se compare pas avec rien. Ichuda Tata, Ichuda Ila. On va avancer un petit peu en quelques lignes. Irak chez Midat Malchut, Midat Atitum va Esther, la stir, le chelou va cloisonner dans le pseudo. Voilà. Veine. Je suis en bas de la page 95. Veine. Veine. Mach, Inid Baer. Or, avec ce qui a été expliqué, Yuvan Machekat, on va comprendre ce qui a été écrit. Anya Shemloshaniti. On va comprendre ce qui est écrit dans Malachi, c'est un prophète. Il dit, Ani Hashem le Shaniti, moi Dieu, je n'ai pas changé. Ça veut dire quoi que Dieu dit je n'ai pas changé? Pourquoi quelqu'un a pensé que Dieu a changé ici?
Oui, c'est vrai, mais enfin, pour retourner à la question, comme on ne l'a jamais vu, comment on peut dire qu'il n'a jamais changé?
Non, c'est pas moi. Moi Dieu, je n'ai pas changé. Heureusement que tu n'as pas changé, qu'est-ce que tu me racontes?
C'est logique.
Seulement encore une fois. Encore une fois. C'est que ce qu'il veut te montrer, c'est qu'en vérité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, rien n'a changé. Akadosh Baruch Hu est toujours aussi présent ici-bas qu'il était en haut. Rien n'a changé.
Mais est-ce que moi j'ai changé?
C'est la question, exactement. C'est ce que moi j'ai changé. Est-ce que moi j'ai réussi à m'adapter et à comprendre cette éternité d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu est partout? C'est ce que là-bas, pour pouvoir voir le verset dans Malachi, il dit, moi Dieu, je n'ai pas changé. Moi, je n'ai pas bougé. Je reste le même. Vous, est-ce que vous avez changé?
On fait quand même sa volonté. On s'est marié.
Oui,
on
a
fait
des enfants. Mais encore une fois, ça reste...
On respecte les fêtes.
La grande question, c'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait?
Pourquoi je l'ai fait?
Pourquoi j'ai fait la mitzvah?
Ah, parce qu'on a demandé de le faire.
Grande question, ça.
On a demandé de le faire.
Pourquoi tu fais mitzvah? Pourquoi tu es venu au cours le Torah ce soir?
De
Monsieur Benita, pourquoi tu es venu au cours ce soir?
Bah, même pour...
Honnêtement.
Il a déjà répondu à la question, monsieur Benouda, il y a quelques mois.
Ce qui symbolise, ce qui symbolise de tout, c'est la fête de Pessah. Ah, la fête de Pessah, elle symbolise toujours la même chose.
Pourquoi elle nous court le temps?
On répète toujours la même chose.
Il doit poser la même question.
Pour que madame soit tranquille pendant une heure.
Parce que je pense qu'il y a un bénéfice à venir. Je ne sais pas lequel.
Non, ça, ça, fait un
bénéfice.
Ça, ça
donc c'est du business spirituel.
C'est à madame Benita qu'il faut poser la question, s'il y a un bénéfice.
Joseph, c'est un commerçant. On n'investit pas s'il n'y a pas de retour sur investissement.
C'est à madame Benita qu'il faut poser la question, est-ce qu'il y a un bénéfice.
Si j'ai compris 1% de ce que tu as dit, c'est déjà du bénéfice.
Bien sûr.
Donc c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu, je ne suis pas venu pour de l'argent.
À un moment, voilà, le but du Tania, c'est qu'à un moment... Il faut essayer de changer de lunettes, au moins pour une partie de notre vie. 1%, 2%, 3%, peu importe. Peu importe.
Et après, tu donnes aux enfants.
C'est ça qu'on sait quand je forme le jeune homme pour le mariage, etc. J'en parle beaucoup de ça. Cette notion de mettre un Kadosh Baruch Hu dans notre couple, dans la maison. On n'a pas idée à quel point ça, c'est l'ingrédient. C'est pas un équilibre. C'est l'ingrédient qui règle tous les problèmes. Tous les problèmes. Il n'y a pas un problème qui n'est pas réglé.
C'est l'arbitre.
Quand tu te poses la question, qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? C'est une bonne chose, c'est une question ça. Que Dieu pense de tout ça, je sais pas, c'est une bonne question. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Est-ce que Dieu pense que maintenant je dois me taire ou je dois parler? Moi je pense que je dois parler et que je dois rentrer dedans. Alors, qu'est-ce que Dieu y pense? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce que Dieu y pense de tout ça? Que Dieu pense qu'il faut parler, faut pas parler, objectivement? Bonne question, je sais pas. Ça c'est Yehudaïla. Il faut petit à petit changer de lumière. On va réussir. Et c'est pour ça que je vous cache pas, chez Rodemona, c'est très compliqué. C'est la partie la plus compliquée du Tania. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Mais on sent qu'il nous tire grave vers le haut, là. Si vous voulez, l'Admor HaZaken, il nous met dans son monde de tzadikim, en vérité. Il nous fait goûter un petit peu à ce qui se passe dans la vie d'un tzadik. Il nous fait goûter un petit peu à ce qui se passe dans cette approche. Et c'est vrai, quand tu réfléchis comme ça, tu comprends qu'il y a une autre façon de voir la chose. C'est important. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continue la semaine prochaine, si Dieu veut.
On vient dormir cette nuit, on va encore.
Oui, travailler. Harvey, tu es là.
Oui, là.
Je ne vais pas pouvoir rester, moi, mais si vous avez. Vous êtes juste 10.
Ouais, on est juste 10. Sans toi, on est.
Moi, vous êtes 10.